Bonsoir à tout le monde. Très heureux de vous rencontrer à nouveau. Bon, nous allons parler donc des mutations de la société israélienne dans l'actualité. C'est effectivement le sujet qui a été proposé. Quand nous parlons d'actualité, il faut savoir de quelle actualité nous parlons. Donc, où est-ce que ça se trouve dans le temps? Alors, nous avons l'actualité de l'État d'Israël, ou on pourrait dire du mouvement sioniste depuis ses origines jusqu'à nos jours. C'est une forme d'actualité pour une histoire de plusieurs milliers d'années. Alors, une époque de une période de 100 ans, de 150 ans, ça reste l'actualité. Et nous allons donc revenir un peu là-dessus pour mieux comprendre les événements de l'actualité immédiate, celle des derniers mois, en particulier depuis Simchat Torah, l'attaque meurtrière et barbare du Hamas contre Israël. Et donc, je vais être obligé, donc, comme je l'ai dit, de rentrer à nouveau dans des généralités d'ordre méta-historique. Tout d'abord, parlons, disons, un peu comme on parlait de Manitou, de problèmes d'identité. Et nous sommes un peuple qui est très occupé de manière quasi obsessive à définir son identité. Nous avons une quantité absolument incroyable de séminaires sur l'identité juive. Si on se pose la question de savoir qui nous sommes, ça veut dire que nous ne sommes pas sûrs d'abord de savoir qui nous sommes. Et pourquoi est-ce que c'est légitime? Nous sommes le seul peuple à se demander en permanence s'il a le droit d'exister ou pas. Ça arrive même à des absurdes. Il y a souvent la négation de l'existence même du peuple d'Israël par des enfants d'Israël, qui disent le peuple juif, mais ça n'existe pas, comme par exemple l'a écrit l'écrivain israélien Shlomo Zand dans son livre Quand a été inventé le peuple juif? Ou bien l'opinion du professeur Yuval Noah Harari dans son livre traduit en français du nom de Sapiens, dans lequel il dit le peuple juif n'a eu aucune influence dans l'histoire. Eh bien donc, c'est donc le fait de se demander est-ce que j'ai le droit d'être, et effectivement très juif. Je voudrais même rajouter encore un autre point. Quand on dit je ne suis pas ton frère, c'est la preuve qu'on est son frère. C'est-à-dire seul un frère peut dire je ne suis pas ton frère. Donc nous sommes confrontés toujours à des problèmes de définition de l'identité d'Israël. Je vais être très rapide. Il y a en fait trois manières de se définir en tant qu'Israël. Il y a tout d'abord l'idée que le judaïsme, la judéité, serait une religion. C'est une idée colportée souvent dans des milieux dits orthodoxes qui disent, ben oui, le judaïsme est une religion, donc la fidélité à la religion définit la relation qu'on a envers sa judéité. D'autres diront, en général, ça relève du sionisme, mais parfois également d'autres mouvements, comme quoi le judaïsme est une nation. C'est une nation, et cette nation a reçu la Torah, mais c'est une nation tout d'abord, donc une entité politique. Et il y a également un troisième référent, c'est cette idée que le judaïsme n'est ni une religion ni une nation, mais une sorte de mission, une sorte d'identité cosmopolite, qui aujourd'hui rejoint l'idée, par exemple, américaine du Tikkun Olam. C'est un terme qui est passé dans la langue anglaise et en américain, et qui en fait parle d'humanisme. C'est comme si le judaïsme et l'humanisme en fait étaient à peu près la même chose, les droits de l'homme, tout ce qui s'ensuit. Alors, ce qui est surprenant, c'est de voir qu'effectivement, dans la tradition d'Israël, nous avons les trois identités qui se retrouvent sous trois vocables différents pour désigner le patriarche qui est à l'origine d'Israël. Le troisième des patriarches, donc ni Abraham ni Isaac, mais le troisième. Le troisième s'appelle-t-il comment? Ben, il s'appelle parfois Yaakov, Jacob en français. Il s'appelle parfois Israël. Et de manière assez rare, mais ça existe quand même dans la Bible, il s'appelle Yeshurun. C'est comme s'il y avait trois manières d'être Israël. Et si on essaie de résumer très rapidement, je vais vous faire grâce des appuis textuels qui prouvent ce que je dis. Jacob, c'est le juif de l'exil. C'est le juif qui se définit par rapport à la religion. C'est-à-dire, je suis tout d'abord un fidèle de la synagogue, je respecte le Shabbat, je porte les téphilines, je mange kasher. C'est ça la définition du juif, et d'où parfois effectivement la réticence que se ressentent certains juifs profondément religieux par rapport à l'idéal que donne la Torah de la Aliyah. Alors que la Aliyah est l'expression de l'accomplissement de l'alliance entre Dieu et les patriarches, certains se disent, oui, mais pourquoi accomplir cette alliance? Il suffit d'être religieux. D'accord? Donc nous avons cette définition, Yaakov. Par contre, nous avons la définition Israël. Israël, c'est le nom qui est donné à Yaakov, notre ancêtre, lorsqu'il rentre en Eretz Israël et qu'il est capable de lutter, de faire la guerre, quand il est capable de se défendre et même de conquérir. Dans l'épisode de la ville de Shrem et tout ce que vous connaissez des textes de la Bible. Donc il y a également une définition d'Israël en tant que nation. Il y a d'ailleurs dans la carte d'identité israélienne, aujourd'hui ce n'est plus inscrit sur la carte, mais c'est écrit quand même dans les dossiers du ministère de l'Intérieur, chaque individu, chaque citoyen israélien est indiqué comme de quelle religion il est et de quelle nation il est. Dat Léom. Pour ce qui est des juifs en Israël, dans le dossier du ministère de l'Intérieur, il y a écrit religion juif, nation juif, Yehudi, Yehudi. Et c'est une manière de dire qu'en fait, l'État d'Israël a décidé de ne pas décider. C'est-à-dire dans le conflit de définition de l'identité d'Israël, certains vont voir dans le juif la religion et certains vont voir dans le juif la nation, et l'État d'Israël dit, eh bien, on ne veut pas trancher. Donc, c'est à la fois Yaakov et Israël. Et puis, il y a également la troisième identité, l'identité cosmopolite, qui est celle de Yeshurun, la troisième identité qui s'élargit dans un cercle plus large, qui confond l'identité juive avec l'humanité, qui, d'une certaine manière, est une forme d'assimilation. Manitou appelait ça l'aramaïsme, l'araméen, c'est-à-dire l'araméen, Lavan, l'araméen, qui continue la lignée du frère d'Abraham, Nahor, qui voit le devenir des Hébreux dans la diaspora, c'est-à-dire de fonder des communautés hébraïques en dehors de l'identité nationale. Et c'est ça, disons, la tentation araméenne sur laquelle Manitou s'est beaucoup étendu. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que si on voit un peu ce qui s'est passé depuis les débuts du sionisme, eh bien, dans les débuts du sionisme, il y a eu un conflit pour savoir qu'est-ce que c'est que les Juifs. Les antisionistes disaient, puisque ce n'est qu'une religion, pourquoi passer au nationalisme? Et comme les sionistes disaient, mais comme c'est une nation, pourquoi les mitzvot? Et très peu de Juifs étaient à la fois religieux et nationaliste. Il y avait, disons, le mouvement Mizrahi et d'autres tendances qui faisaient l'unité des deux. Mais de manière générale, c'était considéré comme une opposition. Ce qui s'est passé avec la fondation de l'État d'Israël, là je reviens au terme biblique, c'est la victoire d'Israël sur Yaakov. C'est-à-dire, c'est l'identité nationale qui a prédominé. Alors effectivement, dans l'État d'Israël, il y a toujours un respect pour la religion juive, mais de manière générale, on parle de l'israélien plus que du juif. Alors Israël, c'est l'État des juifs, mais c'est quand même l'israélien qui prédomine, en tout cas, c'est ce qui s'est passé avec la fondation de l'État d'Israël. Alors il y a toujours eu une tolérance, donc par rapport aux religieux, on a toujours accepté que les autobus ne voyagent pas le jour du Shabbat, les transports publics. Et puis que on ne rentre pas avec sa voiture dans le quartier de Mea Shearim. Mais de manière générale, le religieux était un peu mis à part. Par contre, il y avait une sorte d'alliance entre les sionistes et les cosmopolites. C'est-à-dire la culture cultivée par les sionistes était très souvent avec un cachet universel, en fait une culture européenne. Tout cela a changé lorsque il y a eu la guerre des six jours. Donc vous voyez que j'arrive très vite à notre sujet. La guerre des six jours a été un événement absolument incroyable. C'était un événement biblique en pleine modernité. Alors, un événement biblique en pleine modernité, c'est très troublant, entre autres pour la théologie chrétienne, également d'ailleurs pour l'islam, mais surtout pour les Israéliens eux-mêmes. Parce que les religieux qui ne participaient pas à l'effort sioniste ont été bien obligés de reconnaître que l'événement biblique, le retour à Jérusalem et au mont du Temple et à la Judée et à la Samarie, a été réalisé par un Tsahal à majorité chiloni, non religieux. Et puis, les chilonim, donc les laïcs qui ont conquis Jérusalem étaient très embêtés. Comment, nous qui sommes des laïcs, avons-nous réalisé un événement de dimension spirituelle? C'est très dangereux. Mais le fait est là, et c'est ça qui a entraîné la poussée du mouvement national religieux, celui de Gush Emunim, celui des implantations Judée-Samarie, Gaza, le Golan et le Sinaï, en tout cas, a commencé à devenir très important dans l'État d'Israël, cette idée que le sionisme est fondamentalement un projet de la Torah, un projet spirituel, et qu'il a des conséquences au niveau de l'histoire. Alors, ça a été d'ailleurs ça a été renforcé par le leadership du Rav Tzvi Yehuda Kouk, qui a été d'ailleurs un des maîtres de Manitou, et le maître de Manitou, si l'on peut dire. Et finalement, ça a eu une influence sur l'État d'Israël jusqu'à ce jour, la réconciliation entre Yaakov et Israël. Cependant, avec le temps, avec les processus, les différentes guerres, la guerre de Kippour, et puis les accords de Camp David et les accords d'Oslo, a commencé à se profiler une troisième identité, l'identité, disons, qu'on peut identifier aujourd'hui avec le gauchisme, mais c'est pas vraiment du gauchisme, c'est une identité cosmopolite qui semble s'opposer non seulement à l'héritage de la Torah, mais également, d'une certaine manière, remet en question la validité du sionisme. Alors, le sionisme est accepté comme étant un fait. L'État d'Israël existe. On ne va pas remettre ça en question, évidemment. Mais s'introduit un certain malaise. Le malaise qui est justement le malaise de la légitimité de cet État. Et surtout, le sentiment, parfois exagéré, d'un danger de fondamentalisme religieux qui viendrait entraver la démocratie et tout ce que ça représente. Évidemment, c'est un mythe, mais cette terreur existe. Et ça, on peut dire, c'est Yeshurun qui se démarque de Yaakov et d'Israël. Et on peut dire qu'une certaine manière, c'est l'état actuel de la société israélienne. Vous avez une société qui est divisée essentiellement en deux camps qui s'opposent, l'un qui se réclame à la fois du judaïsme et du sionisme, et l'autre camp qui préfère l'option cosmopolite. Tout ce que je dis est évidemment à nuancer, il y a beaucoup de nuances de tous les côtés, mais je parle ici, disons, de manière quasi caricaturale pour bien comprendre les processus qui se passent. Et ce que nous avons connu pendant l'année dernière, l'année qui s'est achevée, avec Simchat Torah, finalement, nous avons connu une atmosphère extrêmement, disons, empoisonnée dans la société israélienne. On avait le sentiment qu'on était au bord de la guerre civile. Des certaines unités d'élite de l'armée de l'air ont dit, nous n'accomplissons pas certaines missions dans la mesure où nous ne sommes pas sûrs que la direction de l'État a des motivations valables. Tout ça autour du problème de la réforme judiciaire, dont nous avons peut-être parlé dans d'autres occasions, mais sur laquelle nous n'allons pas revenir. Mais ce qui a été, disons, mis en exergue, c'est cette idée que la démocratie est en danger, ce qui est totalement faux, évidemment, je suis obligé de le dire. Mais en tout cas, il y avait ici, on peut dire, deux civilisations, deux cultures qui s'affrontent et qui ne sont pas encore proches de se réconcilier. Et est intervenue la guerre de Simchat Torah. Alors la guerre de Simchat Torah, a eu des effets extrêmement dramatiques que nous n'avons pas encore fini de discuter et nous n'avons pas encore vu toutes les conséquences. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que la guerre de Simchat Torah a de manière surprenante réalisé l'unité. Alors, c'est l'unité au combat, mais même si ce n'est pas simplement l'unité au combat, parce que tout le monde fait la guerre en même temps de toutes les opinions politiques qui soient, et que nous avons un ennemi commun, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement le danger qui rapproche, il y a ici le sentiment que quelque chose de très profond dans notre intériorité, dans l'identité du peuple d'Israël, est beaucoup plus fort que les divisions superficielles. C'est-à-dire, au niveau, disons, du superficiel, alors on dit, oui, celui-là est de gauche, celui-là est de droite, celui-là religieux n'est pas religieux. Parfois, on dira même séfarade ou ashkénaze. Mais en vérité, on sent que tout cela n'est pas la profondeur de la couche profonde de l'identité. Or, de ce point de vue-là, on peut dire que c'est extrêmement réconfortant. L'enjeu actuel, et dont tout le monde parle aujourd'hui en Israël, c'est de savoir dans quelle mesure cette unité sera préservée après la victoire que, Inch'Allah, nous aurons contre le Hamas. Parce que les objectifs de la guerre sont controversés, pas tout le monde est d'accord. Certains vous diront, oui, il faut réimplanter les Juifs dans le Gouche Katif, annexer la bande de Gaza. Certains vous diront, mais non, mais pas du tout, il faut une force internationale. D'autres vous diront, non, non, il faut que ce soit l'autorité palestinienne qui domine là-bas. Enfin, personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Et les animosités vont probablement reprendre. Cependant, même si les conflits d'idées, les conflits d'idéaux continuent d'agiter la société, eh bien, cependant, le cap qui était le danger d'une guerre civile, d'un affrontement entre différentes parties de la population, ça, nous savons que ça n'aura pas lieu. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté, moi et d'autres rabbins, nous avons fait une délégation qui a été prête à rencontrer le groupe appelé Achim Laneshek, les frères d'armes, qui sont ceux qui ont menacé justement de ne pas participer à une guerre si elle se déclarait. Et nous les avons rencontrés ensemble dans leur quartier général à Tel Aviv. Et c'était nécessaire, non pas pour envisager un rapprochement des opinions, vous savez que les opinions des Juifs ne se rapprochent pas si facilement que ça, mais c'était pour briser la glace. C'est-à-dire pour se dire, maintenant nous sommes frères, nous travaillons ensemble, et parce que nous voulons tous un État juif et un État démocratique. Alors, c'est facile de le dire au niveau des slogans. Quand on rentre dans la profondeur des idées, qu'est-ce que c'est que juif et qu'est-ce que c'est que démocratique, c'est là que commencent les crissements. Mais le fait même qu'il y ait, disons, une sorte de drapeau, d'étendard qui nous réunit, c'est déjà très réconfortant. J'irai même plus loin. Ce qui s'est passé depuis, il y a eu un changement d'atmosphère. Pendant toute l'année qui vient de passer, j'étais fort inquiet parce que je me rendais compte que l'écoute n'existait pas. C'est-à-dire, souvent, il y a eu des conflits d'idées dans le peuple d'Israël et dans la société israélienne, ça c'est normal, mais chacun était prêt à écouter l'autre, à savoir ce qu'il dit au moins, à essayer de comprendre la logique de sa démarche. Mais pendant toute l'année précédente, il y a eu une sorte de crispation qui faisait qu'un côté ne pouvait pas entendre ce que dit l'autre. Et ça, c'était très dangereux. Or, j'ai le sentiment, et je pense que je ne suis pas le seul dans la scène publique, que un début d'écoute est possible. Non pas un début d'accord, mais un début d'écoute. Et le fait d'être capable de s'écouter, c'est une possibilité qu'un jour se crée une synthèse. De même qu'il y a eu la synthèse entre Yaakov et Israël après la guerre des 6 jours, il faut envisager la création d'une nouvelle identité qui va, disons, introduire Yeshurun avec Yaakov et Israël dans un seul et même paradigme. Alors, il y a souvent la tentation, on entend souvent ça, qu'il faudrait compartimenter la société israélienne, une sorte de cantonisation à la Suisse. Il y aurait des cantons libéraux, des cantons religieux, des cantons nationalistes, etc., des cantons arabes. Et donc, en fait, ça serait morceler le territoire d'Eretz Israël en différentes options politiques et idéologiques. Je pense que ce genre de discours n'est que le reflet d'une terreur qui est ressentie par une partie de la télé, de la population, mais c'est absolument, Baruch HaShem, irréalisable. Nous sommes très heureux de voir qu'il est impossible de séparer les Juifs des Juifs, parce que dans toutes les familles, vous avez toutes les opinions et que les gens vivent l'un à côté de l'autre. Donc, on peut dire que nous avons non seulement un retour à la fraternité, mais nous avons également un éveil de l'écoute. Et ça, je pense que c'est un acquis qui est indélébile sur la, disons, sur l'arrière-plan des événements tragiques que nous vivons actuellement. Et puis, il y a également un autre élément qui s'est éveillé ces derniers temps. C'est une prise de conscience collective face à l'islam. C'est-à-dire, la motivation de nos ennemis est une motivation islamique. On ne peut pas le nier, c'est réduire ça simplement à de la barbarie locale. Cela, en fait, ne revient à rien. Il faut bien comprendre qu'il y a un fondement théologique au Hamas, même si ça a pris des proportions absolument inhumaines, mais il y a un fondement théologique. Or, il y avait une sorte de consensus, un non-dit dans la société israélienne dans les dernières années, c'est que le conflit israélo-arabe est un conflit purement national, mais qu'il faut surtout ne pas dire que c'est un conflit d'ordre religieux, parce que dans ce cas-là, il serait insoluble. C'est une façon de dire, si je vois quelqu'un qui a une maladie incurable, je vais lui raconter qu'il a une autre maladie qui, elle, est curable, et je vais lui donner les médicaments qu'on donne pour l'autre maladie. Mais aujourd'hui, la société israélienne dans son ensemble comprend que nous sommes dans un conflit religieux entre ce que représente le judaïsme, la Torah, et ce que représente l'islam. Et cela donc invite à un approfondissement profond de ce qu'est l'islam et de ce qu'est le judaïsme. Beaucoup de gens se disent, depuis qu'ont commencé ces événements, je me demande qui suis-je? Quelle est ma judaïté? Qu'est-ce qu'elle signifie? Le fait même de rentrer dans l'interrogation est très important, même si on n'a pas toujours les réponses dans l'immédiat. Le fait d'être capable de se poser des questions, c'est traditionnellement la clé de toute réponse. Vous connaissez la Haggadah de Pessah? Dans la Haggadah de Pessah, eh bien, il y a quatre fils. Il y en a trois, hein, qui posent des questions, et le quatrième n'en pose pas. Alors on pourrait se dire, tiens, s'il ne se pose pas de questions, c'est le meilleur élève. Il ne pose pas de questions, on va lui dire tout de suite ce qu'il doit penser. Et la Haggadah considère que le fait qu'il y a un fils qui ne s'est pas posé de questions, c'est un problème. Et donc, il faut lui apprendre à poser des questions. Et c'est les événements que nous vivons nous apprennent à poser des questions et à comprendre la nature du conflit. D'ailleurs, et là, c'est un point qui, de mon point de vue, est assez surprenant, j'ai pu remarquer que dans la société musulmane, il y a actuellement des mutations d'identité et les gens se posent des questions eux aussi. Il m'est arrivé de rencontrer des Arabes israéliens, des Arabes des Émirats, qui m'ont fait part de leurs interrogations et parfois justement de leur démarche décisive de se détacher, par exemple, de la théologie islamique. Et là, je ne voudrais pas rentrer dans le débat qui certainement est houleux en France, la différence entre islam et islamisme. Y aurait-il un islam extrémiste et un islam modéré? Tout cela, ce sont des choses qu'il faudrait discuter dans un autre cadre. Et là, je vous invite à écouter les conférences merveilleuses de Eliezer Cherki, vous connaissez probablement à ce propos, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, il y a ici la conscience que nous vivons au Proche-Orient. Nous ne vivons pas au Luxembourg. Imaginez par exemple qu'il y ait un conflit de frontières entre le Luxembourg et la Belgique. Mais il sera réglé par une commission internationale qui va siéger avec des juristes et autres personnes de ce genre pour décider du tracé précis de la frontière. Mais ce n'est pas le cas au Proche-Orient. Ce n'est pas un problème de frontières, c'est un problème de légitimité d'identité. Est-ce que l'État d'Israël est l'émergence de l'Israël biblique ou pas. C'est ça dont il est question aujourd'hui et c'est ça qui alimente les débats au sein de la société. Alors évidemment, vous aurez toujours à l'extrême des forces agressives et nocives qui veulent à tout prix, par exemple, la tête du Premier ministre. C'est devenu un mythe. Ou bien certains vous diront, il faut absolument remplacer toute la place politique, toute la classe politique. Il y a beaucoup d'affirmations qui, en fait, sont l'expression d'un désarroi par rapport justement à ce qui se passe. Mais disons que toute crise est toujours une source d'espérance. Ça s'appelle la création de nouvelles options, de nouvelles possibilités. D'ailleurs, de manière générale, et ça je le dis souvent, je pense que je suis atteint d'une maladie grave, l'optimisme chronique. Mais l'optimisme chronique est absolument obligatoire étant donné que si Dieu a créé le monde, alors ça veut dire que le monde a un sens. Manitou, d'ailleurs, disait toujours, pourquoi est-ce que la Torah nous a dit au début de la création, Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu a créé le monde? C'est pour que nous sachions que le mal est provisoire, il est éphémère. Parce que si il y a un projet au début de l'histoire, au début de la création, ça veut dire qu'il y a également un but et que ce but, nous y arrivons. Alors parfois, nous y arrivons avec des difficultés. On a un peu le sentiment aujourd'hui en Israël que nous sommes dans un accouchement. Au moment de l'accouchement, alors vous savez, on dit à quelqu'un, vous savez, dans 9 mois, cette femme aura un enfant. Ah, c'est extraordinaire, quelle joie! On veut être là. Arrive la fin du 9e mois, et alors on se dit, mais c'est ça que vous attendiez tellement? On voit ici que des cris, des douleurs et du sang. Il faut un peu de patience. Nous sommes en train d'accoucher. L'accouchement de la nouvelle identité d'Israël. Et donc, nous pouvons dire que nous vivons aujourd'hui un optimisme profond du fait que nous sommes au sein de la tornade, dans le creux de la vague. C'est-à-dire, il y a des événements qui touchent à la planète tout entière, qui sont des remises en question des valeurs et des politiques qui jusqu'à présent étaient de mise. Et aujourd'hui, nous comprenons que quelque chose est en train de changer. Alors, nous espérons évidemment que ces changements se feront avec le moins de dégâts possible. Hélas, nous avons eu énormément de dégâts. Mais ce que nous ressentons, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une lutte beaucoup plus profonde qu'une lutte pour notre survie. Nous sommes une avancée de la lutte entre le bien et le mal. Et là, c'est là que commence toute une problématique de la société israélienne. Qu'est-ce que nous avons à dire au monde? Alors, il y a deux positions possibles. Il y a une position qui consiste à dire, ben, nous allons justifier, face par exemple, essentiellement à l'Occident, la validité de notre lutte. Nous avons été attaqués de manière barbare. C'est terrible ce qui s'est passé. 1 400 morts en un jour et des centaines d'otages le même jour. Les otages, des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, des vieux, des enfants. Les morts en question, c'est pas simplement un assassinat, c'est pire que ça. Il y a eu des viols, des mutilations, la barbarie, des incendies, des choses terribles. Et alors, le problème, c'est donc, si nous sommes dans la lutte entre le bien et le mal, on fait souvent référence d'ailleurs à la guerre contre Amalek, comment le faire? Alors, il y a ce qu'on appelle les normes de la communauté internationale. La communauté internationale, représentée ici en particulier par le président américain Biden, Joe Biden, qui intervient d'ailleurs dans la souveraineté israélienne, qui se mêle de tout. Et en fait, nous devons nous justifier par rapport aux normes occidentales, qui, comme chacun le sait, ont échoué en Afghanistan, au Vietnam, en Libye et un peu partout dans le monde. Mais en tout cas, les Américains qui ont échoué face à la barbarie universelle continuent à donner des leçons. Il y a une autre possibilité, qui est beaucoup plus profonde, c'est de voir dans l'État d'Israël le phare moral qui va tracer la voie de la lutte contre le mal. Et cette expectative se trouve en filigrane dans l'Occident européen. En effet, contrairement à l'Amérique qui n'est pas en danger d'islamisation, l'Europe est effectivement aujourd'hui en danger d'islamisation, de conquête, de manière d'ailleurs subtile, pas de manière, c'est pas avec une lutte organisée, avec une armée, mais il y a effectivement ce changement d'atmosphère, cette dimisation, par exemple, de la France, le fait qu'aujourd'hui, souvent les Juifs en France se sentent obligés de se réfugier dans l'anonymat, la synagogue est en danger, elle doit être protégée par la police et parfois par l'armée. Eh bien, donc l'Europe, pas seulement les Juifs, mais l'Europe de manière générale se sent menacée. Et donc, elle peut voir dans Israël une sorte d'avant-poste de la lutte contre le djihad universel. Et là, c'est à nous, les enfants d'Israël, d'avoir une position morale, qui est ce que Manitou appelait l'unité des valeurs. L'unité des valeurs, c'est-à-dire que la morale n'est pas seulement la générosité, la midat haResed, elle n'est pas seulement la rigueur, la midat haDin, elle est l'unité des deux. Et donc, d'ailleurs, j'ai vu avant cette intervention, j'ai pu voir une intervention de Ben Shapiro, le personnage politique dans le public américain, à qui quelqu'un a demandé, est-ce que votre position conservative ne s'oppose pas à l'idéal de générosité prôné par la religion, y compris la religion juive? Ce à quoi il a répondu, en juif très fier, je ne vois pas quelle est la contradiction qu'il y a entre la miséricorde et la lutte contre le mal. C'est-à-dire la lutte contre le mal, contre ceux d'ailleurs qui font du mal à leur propre peuple, pas seulement au nôtre, cette lutte est une miséricorde contre le mal. Et d'ailleurs, nos sages l'ont dit, celui qui a pitié de ceux qui sont cruels est cruel envers ceux qui sont miséricordieux. Kol amerachem al achzarim, sofo mitachzer al rachmanim. Et donc, nous pouvons aujourd'hui avoir, nous avons le sentiment que nous sommes en train de créer justement ce phare moral, ce rayonnement spirituel qui doit influencer l'ensemble de l'humanité. Et je pense que un des processus qui vont s'engager dans la société israélienne après la victoire que nous aurons, inshallah, mirabiamenu, eh bien, ça sera justement cet établissement d'une nouvelle identité israélienne qui va comprendre qu'elle a une mission universelle et pas simplement un droit. Nous n'avons pas seulement un droit à notre terre, nous avons une mission à travers cette terre et que cette mission doit s'accomplir envers l'ensemble de l'humanité. Il y a également des éléments, disons, pourrions dire plutôt ponctuels, qui s'allient aux événements actuels. C'est tout d'abord le désir profond de la victoire. Jusqu'à présent, lorsqu'il y a eu des luttes contre nos ennemis, le but était souvent de retrouver la tranquillité. Mais il y a aujourd'hui un surplus d'énergie qui est également nous voulons la victoire. Et il y a un mot d'ailleurs qui est parfois employé, qui n'est pas toujours populaire, mais qui est véritable sur le plan moral, c'est la vengeance. La vengeance, en hébreu, nekama, n'est pas toujours négative. Rappelez-vous une chose importante, c'est qu'après la Shoah, beaucoup de personnes ont perdu la foi parce qu'elles ont eu le sentiment que le monde était livré au mal et qu'il n'y a pas eu de vengeance digne de ce nom, la vengeance du sang versé des innocents. Et ça, c'est important, donc qu'il y ait la victoire. De plus, il y a un autre élément qui est très fort et qui touche pratiquement toute famille en Israël, c'est que nous constatons l'héroïsme des soldats. Les soldats d'Israël sont des héros de guerre, qui sont prêts à risquer leur vie, et qui parfois donnent leur vie, pour sauver leur peuple. Et ils le font donc de manière absolument fulgurante, Nous voyons ces soldats qui sont à la fois des héros de guerre et des personnalités morales du plus haut niveau. Souvent d'ailleurs des étudiants de la Torah, des personnes versées dans la tradition d'Israël. Pas toujours d'ailleurs. Il y a de tous les camps, hélas, des victimes. Mais il y a une proportion absolument hallucinante de personnes de très haut niveau moral qui participent à cette guerre. Et puis, il y a également l'héroïsme des familles. Les familles, qui d'ailleurs souvent sont déplacées, c'est-à-dire par exemple la ville de Sderot et plusieurs villes en Israël ont été déplacées, c'est-à-dire la population a dû se réfugier ailleurs et se vivre jusqu'à présent dans des hôtels ou dans leurs familles au milieu du pays. Et l'héroïsme des familles est assez remarquable parce que surtout il y a une mobilisation de toute la population pour aider ces familles et pour aider les soldats. Mes enfants qui sont au front me racontent qu'ils ne cessent de recevoir des sucreries et des gâteries. Ils ne savent plus quoi en faire, sans parler du fait qu'ils reçoivent des dons de matériel militaire qui est parfois indispensable et qui sauve leur vie. L'armée n'a pas toujours les moyens de donner tout le matériel. Et donc, il y a des dons qui sont versés de manière tout à fait bénévole et généreuse. Et ça aussi, ça cimente l'unité de notre peuple. Et puis, il y a également un phénomène qu'on ne peut pas éliminer, c'est de voir l'écart extrêmement important qu'il y a entre les médias et le peuple. Et, la classe journalistique est le plus souvent obnubilée par les manières de penser antérieures à la guerre. Effectivement, on ne change pas d'approche en une semaine, en un jour. Alors, effectivement, nous avons des discours extrêmement décourageants. Je vous propose, si vous êtes en Israël, n'écoutez pas la radio, parce que la plupart des chaînes sont des chaînes, disons, défaitistes. Par contre, si on voit ce qui se passe sur le terrain, aussi bien à l'armée que chez les civils, il y a un courage et un esprit d'entraide et également de volonté de vaincre extrêmement fort. Ce qui fait que nous découvrons, ce que nous savions déjà, c'est qu'en fait, les médias ne représentent pas le peuple. Ce qui va probablement entraîner, dans les mois qui viennent, une sorte de changement de ce qu'on appelle l'élite de la société. Les élites sont en train de changer parce que les élites actuelles se sont révélées comme incapables de comprendre dans quel monde ils vivent, qu'est-ce que c'est que le Proche-Orient, qu'est-ce que c'est que l'islam, qu'est-ce que c'est que la fraternité entre les enfants d'Israël. Et donc, ça va entraîner cet écart entre le peuple et les médias, va entraîner probablement donc une transformation des élites dans le peuple d'Israël. Et puis, il y a également un phénomène parallèle, disons auxiliaire de notre point de vue, qui est l'éveil de l'antisémitisme, qui relève la tête dans l'ensemble du globe. Alors, c'est effectivement navrant, pour le moins qu'on puisse dire. Il y a des victimes de cet antisémitisme. Il y a une hargne terrible qui est déversée contre le peuple d'Israël et les Juifs dans leur ensemble. Et on peut dire que c'est ce qu'on appelle dans la tradition kabbalistique un birour. Un birour, c'est un tri. C'est-à-dire, le Talmud nous dit que viendra un temps dans l'achèvement de l'histoire où les nations seront jugées par rapport à leurs relations envers Israël. Alors, nous sommes à cette époque. Nous sommes à cette époque d'achèvement de l'histoire. Et c'est là que il est tout à fait, disons, prévisible. Peut-être qu'on n'a pas tout le monde l'a compris, mais c'était tout à fait prévisible que l'affrontement entre plusieurs civilisations et, disons, le fait que l'ensemble de la communauté internationale soit concernée, que cela éveille une animosité contre Israël qui représente l'éventualité d'une alternative de civilisation et de valeurs morales. Et donc, ne vous étonnez pas qu'il y ait de l'antisémitisme. Souvent, d'ailleurs, on dit, oui, l'aliyah, c'est important, mais ça ne doit pas être une fuite. Je pense que c'est une erreur. On a tout à fait le droit de faire la aliyah parce qu'on fuit la violence. Ça, c'est souvent comme ça que s'est faite la aliyah. Et c'est comme ça que l'État d'Israël s'est renforcé. Donc, n'ayez pas peur d'avoir peur. On a le droit d'avoir peur de l'antisémitisme, de se sentir étouffé par l'atmosphère environnante et de faire son aliyah. À ce propos, je pourrais dire, une fois j'ai discuté avec un rabbin de Galout, à qui j'ai demandé, qu'est-ce que vous pensez, monsieur le rabbin, de l'aliyah? Il m'a dit, mais l'aliyah, c'est très important, mais il faut que ce soit aussi une aliyah spirituelle. Ce qui est une grave erreur. L'aliyah est une ascension spirituelle, par définition. Parce que c'est là que l'on participe de l'histoire. Et là, je voudrais vous dire qu'il y a un sentiment très fort que nous avons, nous, ceux qui ont déjà fait leur aliyah, ce sentiment que nous sommes dans le lieu où l'histoire se fait. Tandis que celui qui entretient son judaïsme, tant bien que mal, avec beaucoup d'efforts, dans la galoute, vit en dehors de l'histoire. Comme disait Manitou, il est le prolongement de l'exil de Babylone ou de l'exil de Édom, et donc il vit une histoire révolue. Cette histoire est finie depuis longtemps, nous sommes aujourd'hui dans une autre histoire, l'histoire du troisième temple. La troisième maison d'Israël, c'est le moment que nous sommes en train de vivre. Or, les événements vont en s'accélérant. Plus les choses avancent, plus ça va vite. C'est dommage de rater le coche. Rappelez-vous la Mishnah dans le traité de Avot qui dit Hayom katzar v'amelacha meruba v'apoalim atzelim. Le jour est court, le travail est abondant et les ouvriers sont paresseux. Uba la bayit dochek et le maître de maison presse. Alors, Manitou disait, c'est quoi le jour qui est court? Ben, le jour qui est court, c'est le vendredi après-midi dans une cuisine juive. Et il y a beaucoup de travail à faire. Et le maître de maison pousse. Et finalement, on doit arriver au repas du Shabbat. Et dans la l'époque que nous vivons, donc, c'est une époque de cuisine juive à l'entrée du Shabbat. Alors, il faut se dépêcher, parce que de plus en plus, nous voyons que les événements, parfois dramatiques, nous transforment et font une nouvelle identité. Mais ça veut dire que nous sommes dans le lieu, et je reviens là-dessus, dans le lieu où c'est l'histoire qui est en train de se faire. Ne pas participer à cette histoire, c'est tellement dommage. Et donc, il faut parfois voir les choses un peu d'en haut, parce que quand on voit les événements terribles que nous vivons, alors on peut être découragé, on peut se dire, tiens, le mal est possible. Comment est-ce qu'une telle horreur a pu être perpétrée? Où était le bon Dieu dans cette histoire? D'ailleurs, question qu'on s'est posée pour la Shoah, pourquoi ne pas la reposer à nouveau? Eh bien, c'est donc le moment où il faut voir les choses un peu d'en haut et se dire que il y a le Créateur du monde derrière tout ça et que nous sommes donc en marche vers la réalisation pleine de l'identité d'Israël. C'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui un éveil disons, d'attention pour le message du judaïsme dans le monde entier. Ce que, par exemple, j'essaie de promouvoir dans le mouvement Berit Olam, qui diffuse le noachisme dans le monde entier, y compris d'ailleurs en France. Et il y a un intérêt porté pour le message d'Israël, et c'est à nous de le formuler et d'être capable de le retrouver. Il y a une petite remarque quand même à propos du calendrier hébraïque. Nous nous rendons compte que dans le calendrier hébraïque, il y a souvent, disons, chez nos ennemis, une intuition qu'il y a un rapport entre ce calendrier et leur velléité à eux. Rappelez-vous la guerre de Kippour. La guerre de Kippour a eu lieu à Kippour. Et la guerre actuelle a eu lieu à Simchat Torah, exactement 50 ans après la guerre de Kippour. Vous connaissez les cycles de 50 ans de la tradition juive, le jubilé, le yovel, qui fait que à chaque fois que l'histoire doit évoluer, s'achève un cycle de 50 ans. Alors aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau cycle de 50 ans qui va s'achever, Bezrat Hashem, comme il faut. Mais rappelez-vous aussi qu'il y a eu, en l'an 2000, il y a eu la deuxième intifada, le deuxième soulèvement en Judée et en Samarie, qui a commencé le jour de Rosh Hashanah. Je ne veux pas être, je suis frappé par le fait que ces trois événements, la guerre de Rosh Hashanah, la guerre de Kippour et la guerre de Simchat Torah, ont eu lieu toutes les trois le Shabbat. C'est-à-dire, ce sont des années, l'année où a eu lieu le soulèvement en l'an 2000, c'était un Rosh Hashanah qui tombait Shabbat. La guerre de Kippour, c'était un Kippour qui tombait Shabbat. Et Simchat Torah, c'est un Simchat Torah qui tombait Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, je laisse au loisir de tous ceux qui aiment les guématriotes et qui aiment un peu la magie et les superstitions d'expliquer. Mais je pense qu'on ne peut pas ne pas remarquer que l'histoire de nos conflits, même les conflits militaires, sont avec une connotation biblique extrêmement forte, que la providence s'en mêle. Et donc, je peux dire que le moment est venu de comprendre que nous vivons une bouffée d'optimisme, un peu d'oxygène, et parfois nécessaire, pour se rendre compte que nous sommes en train de vivre des mutations de notre identité qui vont en s'accélérant. Alors, la semaine prochaine, quand nous nous rencontrerons, Bezrat Hashem, je ne sais pas quelles seront les mutations qui auront eu lieu jusque-là. C'est pour ça que je me donne encore une semaine. Peut-être que beaucoup de choses vont changer. On verra bien. Bezrat Hashem, merci de votre attention. Merci à Johan, merci à Olivier, à Bella et à tous ceux qui ont eu la gentillesse de bien vouloir participer à cette réunion. Shalom.